franceinter.fr.
19h et presque 17 minutes. Intersport, c'est avec vous, Michel Gourdin. Bonsoir.
Bonsoir, Olivier. Bonsoir à tous.
On va commencer avec la 9e étape du Tour de France, évidemment. Première grande étape de montagne marquée par une chute et un abandon. Ceux de Richie Porte, l'un des favoris.
Eh oui, c'est le paradoxe de cette journée. Trois grands cols étaient à gravir. Et c'est finalement dans une descente, celle du Mont du Chat, la dernière difficulté, que s'est produit le fait du jour. Une terrible chute de Richie Porte, contraint à l'abandon. Christopher Froome, solide maillot jaune, perd l'un de ses principaux opposants. La victoire d'étape est pour le Colombien Oran et le journal du Tour est signé Fabrice Rigobert.
Tour de France 2017 sur France Inter.
Une victoire à la photo finish, Michel, pour le Colombien Rigoberto Urán, dans une étape folle transformée en jeu de massacre dans laquelle le maillot jaune a conforté sa place de leader devant Aru et Romain Bardet. On se souviendra très longtemps de cette 9e étape du Tour de France sur les pentes du massif du Jura qui ont martyrisé le peloton du Tour. Deux membres du top 5 sont ainsi passés à la trappe sur chute, clavicule brisée dans la descente du col de la Biche pour Geraint Thomas, deuxième et en jaune le premier jour. Traumatisme crânien pour Richie Porte, parti à la faute dans la descente du Mont du Chat et percuté par l'Irlandais Dan Martin. Greg Van Avermaet, un des coéquipiers du coureur australien.
Pour nous, c'est un grand déçu, je pense, parce que nous sommes ici avec BMC, avec toute l'équipe pour lui. Et ouais, c'est un peu dommage, il fait un chute ici. Quand tu es dans la limite, quand un grand final comme ça, c'est toujours un peu dangereux. Et ouais, l'équipe est un peu déçue, il n'est pas là. Et on va voir l'autre semaine.
Richie Porte faisait partie du groupe maillot jaune de 7 coureurs lancés à la poursuite du seul rescapé de l'échappée du jour, Warren Barguil, dans la descente technique et sinueuse vers le lac du Bourget et Chambéry à 20 km du but. Romain Bardet, en fin de groupe, a réussi à l'éviter à 72 km/h.
Ah oui, très peur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le temps de freiner et d'anticiper leur trajectoire. Tout le monde était vraiment à fond au sommet, donc c'est le risque, je préférais me positionner en dernière position et je suis désolé pour lui, j'espère qu'il va bien, il méritait pas ça et je pense qu'il y a eu une belle course aujourd'hui et malheureusement fait partie des conséquences, mais on n'aime jamais voir l'adversaire tomber.
Cela n'a pas empêché Romain Bardet de passer à l'attaque. Ensuite, tel un équilibriste, l'Auvergnat a repris et lâché Warren Barguil, le nouveau leader du classement de la montagne, avant de se faire rattraper à 2 km du but par Froome, Fuglsang, Aru, Rigoberto Urán, finalement vainqueur d'un souffle devant Warren Barguil qui s'est accroché.
Après une échappée comme j'ai fait aujourd'hui, j'avais les jambes très très lourdes et réussir à faire déjà un sprint pour finir deuxième, ça relève de un peu de l'exploit. Je suis déçu, mais je suis fier de l'équipe, du travail qu'ils ont fait toute la journée. Et je suis fier aussi de moi parce qu'après hier, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu prendre l'échappée avec les efforts que j'ai fait hier et c'était vraiment une étape marathon qui me correspondait super bien.
Le vainqueur du jour, en dehors de Rigoberto Urán, restera le maillot jaune Christopher Froome, attaqué dans le Mont du Chat par Aru alors qu'il était victime d'un incident mécanique. Le Britannique se retrouve avec 18 secondes d'avance sur l'Italien Aru, 51 secondes sur Romain Bardet 3e, 55 sur Rigoberto Urán 4e. Ils ne sont plus que 4 sous la minute contre 9 au départ de l'étape. Christopher Froome.
À la fin du jour, je suis content avec le maillot, mais très triste à voir Richie Porte qui a tombé et mon équipier Geraint Thomas aussi qui a cassé le clavicule.
Les grands perdants sont Dan Martin, victime de deux chutes, Nairo Quintana et Simon Yates, distancés dans la montée du Mont du Chat. Ils ont abandonné 1 minute 15 au leader, sans oublier Alberto Contador à plus de 4 minutes. Fabio Aru devait-il attaquer Christopher Froome au moment où celui-ci appelait sa voiture dans la dernière montée? La réponse du directeur sportif de l'Italien Dimitri Fofanov.
La course elle a lancé, après Fabio est prévu à attaquer et après on ne sait pas si la crise elle appelle la voiture pour avoir un banane ou un gel quelque chose, après il suit dès le départ les consignes, la coupe elle était mise en avant et bon, il faisait son travail et il partait.
L'autre image du jour, signée Fanny Lechevestrier. De nombreux coureurs sont restés collés à la route dans les cols hors catégorie. C'est avec 58 minutes de retard sur le vainqueur que le champion de France Arnaud Démare, lauréat de l'étape de Vittel, a terminé. Hors délai, donc éliminé.
On peut être très haut comme très bas. On a gagné ensemble, on perd ensemble. Et je suis forcément extrêmement déçu parce que voilà, je pense que c'était passager et que j'aurais pu me refaire la cerise, mais... Voilà, sur le tour, on n'a pas droit à l'erreur.
7 coureurs ont fini hors délai, 5 ont abandonné sur chute. Demain, le peloton profite de sa première journée de repos en Dordogne, entre Périgueux et Bergerac.
Le journal du Tour de Fabrice Rigobert, c'est tous les soirs dans le journal de 19h sur France Inter.
Et puis côté Paris, Paris qui a le regard tourné vers Lausanne, puisque c'est là que le Comité International Olympique a ouvert sa session extraordinaire aujourd'hui.
Oui, 4 jours de réunion et un temps fort mardi avec normalement l'annonce et la confirmation d'une double désignation des villes hôtes des Jeux de 2024 et 2028 lors du vote final le 13 septembre. À Lima, il ne restera donc plus qu'à désigner qui de Paris ou Los Angeles sera le premier lauréat. Les deux villes ont mis les petits plats dans les grands pour faire bonne figure auprès des membres du CIA, délégation au complet pour la présentation des dossiers. Emmanuel Macron, le président de la République, sera présent à Lausanne dès demain après-midi. Rémi Brancato, vous êtes vous déjà à Lausanne? La délégation française affiche clairement son choix. Paris, c'est 2024.
Oui, pas question d'attendre 2028. C'est le message martelé ici par l'équipe parisienne. Mardi, vous l'avez dit, les membres du CIO vont voter et a priori, ils devraient dire oui à cette double attribution, attribution simultanée des Jeux de 2024 et de 2028 au mois de septembre. Mais pour le moment, Paris fait comme si de rien n'était. C'est ce que nous assure Tony Estanguet, l'ancien kayakiste coprésident du comité de candidature.
On ne sait pas exactement ce qui va être discuté. Est-ce qu'il y aura qu'un vote? Est-ce qu'il y aura deux votes? Aujourd'hui, nous, notre position elle est relativement claire, c'est que on reste candidat pour 2024. Notre projet n'a pas été du tout conçu pour 2028. Moi, je veux pas faire des plans sur la comète. Je veux qu'on reste concentré sur 2024. On est là pour ça, pour gagner les Jeux de 2024. Et je veux qu'on arrive à atteindre cet objectif.
Les Jeux de 2024, hein, vous avez bien retenu la bonne date. Tony Estanguet répondait à Richard Vivion ici au Lausanne Palace. Lui, il est là depuis jeudi. Il enchaîne les rendez-vous pour tenter de séduire chacun des 95 membres du CIO qui vont voter. Et la délégation parisienne sera bientôt au complet. Elle compte 30 membres. C'est la règle fixée par le CIO. On attend encore la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui arrive dans quelques minutes par le TGV en gare de Lausanne avec la boxeuse Sarah Ouramoun. Bernard Lapasset, l'autre co-président du comité de candidature, arrive aussi ce soir, le 30e et dernier membre de cette délégation. On l'attend demain et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un certain Emmanuel Macron, le président de la République, un atout de poids. Il participera à la présentation du projet parisien. Ce sera mardi matin.
Rémi Brancato, avec les moyens techniques de Eric Audra, et Anne Hidalgo sera l'invité de France Inter demain matin à 8h20. La Formule 1, le Grand Prix d'Autriche et la victoire du Finlandais Bottas, sa deuxième victoire cette saison. Le pilote Mercedes devance la Ferrari de Vettel et la Red Bull de Ricciardo. Romain Grosjean termine sixième, c'est son meilleur résultat de la saison. Esteban Ocon est huitième. Vettel reste leader du championnat du monde. Et puis Giuliano Alesi, sur les traces de son père Jean, l'ancien pilote de F1, à 17 ans, le fiston a décroché son premier podium dans la catégorie des GP3 séries.
On passe au tennis et comme le veut la tradition, pas de match aujourd'hui à Wimbledon.
Effectivement, on ne joue pas le dimanche sur le gazon londonien, sauf exception due à la présence de la pluie, mais cette année il fait beau. On reprendra donc demain avec les huitièmes de finale et seulement 3 Français encore en lice. Benoît Paire, Adrian Manarino et Caroline Garcia, ils étaient 16 engagés au départ du tournoi. Guillaume Batin, ces 3 Français, ce n'est pas forcément ce que l'on attendait, en tout cas pas ce qu'attendait la Fédération française.
Richard Gasquet, le petit Mozart du tennis français, reste bloqué au troisième tour des Grands Chelems depuis un an. Joe Wilfried Tsonga, le numéro 1 français, va disparaître du top 10. Kristina Mladenovic, elle aussi numéro 1 française, espère accéder un jour à une finale de Grands Chelems. 3 joueurs pourtant adoubés par la fédération française, mais qui se sont fait voler la vedette par les bannis du maillot tricolore. A commencer par Benoît Paire, l'enfant terrible du tennis français, suspendu par la fédération au lendemain des Jeux de Rio. Adrian Manarino, jamais titulaire, toujours remplaçant en équipe de France, il vient d'enchaîner une finale à Antalya et 3 matchs parfaits à Wimbledon. Caroline Garcia, quart de finaliste à Roland-Garros, en pleine confiance sur le gazon londonien, elle qui veut privilégier sa carrière individuelle jusqu'à nouvel ordre, et ses résultats lui donnent raison. Voilà qui devrait donner bien des soucis à Yannick Noah pour constituer ses futures équipes de Fed Cup et surtout de Coupe Davis. La France dispute une demi-finale à Lille, mi-septembre, face à la Serbie de Djokovic. Wimbledon, Guillaume Batin, France Inter.
19h26 sur France Inter. Ce sera sans doute l'un des sportifs français de l'été. Pourtant, son nom ne vous dit peut-être rien. Ce champion, c'est le décathlonien Kevin Mayer.
Et oui, ce sera l'homme à suivre lors des championnats du monde d'athlétisme dans un mois à Londres. Vice-champion olympique l'an dernier à Rio, Kevin Mayer est devenu l'un des leaders de l'équipe de France. Il est déjà en forme et continue sa progression. Pour preuve, ses nouveaux records personnels réalisés, c'était le week-end dernier au meeting de Paris. Alors, on fait plus ample connaissance avec Kevin Mayer grâce à un portrait signé Elliott Will.
Je suis pas du genre à me remettre en question toutes les 5 secondes.
Kevin Mayer connaît ses forces et ses faiblesses. À 25 ans, le Dromois est la nouvelle figure du décathlon mondial. L'été dernier, il a changé de dimension lorsqu'il est devenu vice-champion olympique derrière Ashton Eaton. L'Américain a depuis pris sa retraite internationale et Kevin Mayer est désigné comme son successeur légitime. Prochain grand rendez-vous, les Mondiaux de Londres début août et le Français est bien prêt.
Je me sens en forme, ça se voit, je suis en confiance. Peut-être sans moins de réglages que d'habitude, mais avec beaucoup plus de confiance parce que j'ai zéro douleur physique et j'ai plus qu'à au championnat du monde. Quoi.
Alors forcément, pour Londres, les objectifs sont élevés. Mais Kevin Mayer, c'est un physique, une tête bien faite, mais aussi une façon de s'entraîner. Et les championnats du monde n'ont pas changé sa façon de travailler. Bertrand Valsin, entraîneur de l'athlète français.
Dès le début de la saison avec Kevin, on est déjà dans le détail. C'est pas un athlète qui s'entraîne forcément, je dis pas qu'il s'entraîne pas, mais énormément en grosse charge d'entraînement. Il est toujours avec beaucoup d'intention technique, très, très rigoureux dans ce qu'il fait. En grand championnat, voilà, il a toujours fait force de dépassement de soi, d'aller au bout des choses. Donc vivement Londres.
Vivement Londres, car le Français sur son petit nuage au meeting de Paris samedi dernier, il a brillé 3 épreuves et 2 performances personnelles. La mythique barre des 70 mètres au javelot et un record à 13,78 au 110 mètres haies. De bon augure donc, mais dans la capitale anglaise, ce sera bien 10 épreuves et sur 2 jours, avec pourquoi pas à la fin, la plus belle des médailles.
Et en attendant le championnat, c'était un meeting à Londres cet après-midi. Christophe Lemaître termine 8e du 200 mètres. L'équipe de France de volley remporte la Ligue mondiale comme il y a 2 ans. Une victoire de prestige en 5-7 au Brésil face à l'équipe locale qui est pourtant championne olympique en titre. Victime d'un traumatisme crânien lors de la course The Bridge la semaine dernière, tout va bien pour le marin Thierry Briand qui est sorti de l'hôpital. L'équipier de Thomas Coville sur Sodebo était victime d'une chute à travers cet accident qui se termine bien. C'est tout le problème de la sécurité à bord des bateaux de plus en plus rapides qui pose problème. Les chocs, les mouvements à bord sont de plus en plus violents. Sur la Coupe de l'América par exemple, les équipiers portent désormais des casques et des genouillères. Alors faudra-t-il aussi équiper les marins de la course au large avec ce type de prévention? C'est l'avis de François Gabart, le vainqueur de The Bridge. Il est au micro de Jérôme Val.
On a eu des conditions un peu musclées. D'ailleurs, sur ce débat, on s'est fait quand même sérieusement mal. Voilà, mais moi, je me suis tapé aussi un peu moins fort, donc ça va. Vous imaginez un bateau comme ça, quand ça va vite, dans la mer, ça secoue quand même sacrément. Ça secoue fort. Et ça, c'est aussi nous, je pense, à nous, marins, à naviguer différemment dans les années qui viennent pour être capable de gérer cette vitesse-là, parce que ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On va tout faire pour que ça continue. Et à un moment donné, il va falloir être capable de gérer un bateau qui va à plus de 40 nœuds dans de la mer formée, et il va peut-être falloir s'attacher comme des ceintures de sécurité, il va falloir se protéger. Moi, j'avais pas de casque, par contre, j'avais quasiment toute la course, j'avais des protections là sur le corps. C'était pas mal en fait, hein. Je suis parti un peu en test, et puis je me suis rendu compte que c'était vachement bien, parce que finalement, tu te fais un peu brinque-baller dans tous les sens, et c'est bien d'être protégé, et je pense que dans les années qui viennent, on n'aura pas le choix que de faire ça. Ouais.
Allez, c'est l'été, on termine avec un record de France insolite, celui de la tonte de moutons. 1328 animaux ont été rasés par 2 spécialistes en 9 heures seulement. Le record du monde, c'est 1605 bébêtes tondues.